Yasmine Abdel Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
On revient sur notre entrevue qu'on vient d'avoir avec le ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino. Stéphanie Touga, je suis contente de t'avoir pour savoir s'il t'a convaincu, parce que je me pose encore la question.
Eh là là, convaincu. Écoute, on va écouter ce qu'il y a à dire dans les prochains jours, mais pour l'instant, je suis assez tiède, pour être parfaitement honnête. Je sais pas toi ce que tu as retenu de cette...
J'ai retenu qu'il disait que c'était une situation délicate et importante, ouais. Qu'on va regarder ça, puis qu'on va travailler fort conjointement avec toutes les parties prenantes et que, bref, aucun verbe d'action.
Il y a tous les bons mots-clés, quoi. Il y a tous les bons mots-clés, puis il a sorti un chèque de 40 millions de dollars, puis arrangez-vous avec ça, essentiellement. Là, moi, c'est un peu ce que j'ai retenu. J'étais peut-être un peu sévère, mais... Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans à Montréal. Pendant ces 2 années-là, on a fait une série de demandes importantes au gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec était présent. Honnêtement, là, on va le donner à Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, elle a été au rendez-vous quand il était question de sortir le chéquier, mais aussi mettre des mesures concrètes pour avoir des équipes SQ, SPVM, avoir une vision pour la lutte au trafic d'armes. Dans le cas du fédéral, ils ont toujours été le grand absent. Puis là, ce matin, du moins quelques heures ou quelques jours après les 3 meurtres en 24 heures dans la région métropolitaine, Marco Mendicino sort 42 millions de dollars, comme ça, c'est un peu de son chapeau, pour lutter contre la pour des projets locaux de prévention de la lutte au trafic d'armes. Pour moi, c'est un petit peu pas assez. Je vais saluer parce que c'est important, puis le fédéral est là, puis super, mais pour moi, c'est largement insuffisant. Il y a des mesures que le gouvernement fédéral a dans sa poche qui ont déposé d'ailleurs une partie dans le projet de loi C-21. On verra bien ce qui va se passer avec ce projet de loi-là. Mais le projet de loi C-21 vient resserrer la vis à ceux qui ont une arme de poing, contrôler les armes de poing, mettre de l'argent puis des mesures pour empêcher qu'il y ait des armes qui traversent la frontière aux États-Unis. Mais là, il n'y a rien qui s'est fait. Ça fait 7 ans que le gouvernement Trudeau est au pouvoir. Ça fait 7 ans que les villes disent qu'il y a une montée de la violence dans les grands centres partout au Canada. Et pourtant, il n'y a rien qui a été fait de structurant. Pour moi, le 40 millions de dollars aujourd'hui, c'est un peu une manière de dire c'est tout ce qu'on est capable de vous donner, c'est ce qui reste dans le fond du tiroir, puis arrangez-vous avec ça.
Trop peu, trop tard, diront certains. Puis je me disais, imaginez si c'était le gouvernement conservateur qui avait exactement les mêmes actions en matière de lutte à la violence armée. Les libéraux auraient déchirer leur chemise. En fait, ils n'auraient pas eu assez de chemise à déchirer pour dire que c'est ça, les conservateurs, c'est les républicains des États-Unis qui aiment bien ça, les armes à feu, puis qui veulent qu'on devienne une culture d'armes à feu, alors que là, ils font pas grand-chose.
Ben exactement. Honnêtement, si tu me mettais sur papier, là, c'est le bilan du gouvernement libéral en matière de lutte à la criminalité, puis tu me demandais c'était quelle formation politique, sans me dire c'est qui au gouvernement, probablement que je suis enclin à dire que c'est le gouvernement conservateur qui est un peu laxiste, du moins, parce que sa base électorale souhaite là maintenir un certain accès aux armes, alors que normalement, la base libérale et le gouvernement libéral sont plus interventionnistes en la matière. Ils ont fait des mesures dans les dernières décennies qui valent la peine d'être soulignées. Mais là, honnêtement, le gouvernement Trudeau manque vraiment à l'appel en matière de lutte à la criminalité. Je pense pas qu'il est trop peu, trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est juste que je trouve ça décevant quand les seuls moments où le gouvernement intervient puis injecte de l'argent, c'est quand il y a une tragédie. Je trouve ça un peu ironique qu'aujourd'hui, Mendicino vienne à ton émission, Yasmine, puis il parle de prévention, alors qu'on vient de vivre une tragédie qui est...
On n'a pas encore enterré nos morts, là.
On a vraiment pas enterré nos morts. Je trouve que c'est un peu vouloir mettre un plaster sur une plaie qui est vive puis qui est encore bien, bien, bien présente, là. Pour moi, c'est pas du tout le bon mécanisme. Il est complètement absent du radar. Je veux dire, les villes, là, il y a une flambée des violences armées dans les grandes villes. Montréal est somme toute épargnée quand même. Là, je regardais les statistiques. Oui, là, il y a une montée des armes à feu dans les 10 dernières années du nombre de violences par armes à feu. Mais quand même, si on regarde les voisins comme Toronto, par exemple, il y a un indice de criminalité largement pire. Mais le gouvernement fédéral n'est pas présent. Moi, honnêtement, c'est ce que je retiens, puis je trouve qu'aujourd'hui, cette annonce-là est un peu... Je la trouve tiède. Fait que attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais j'espère qu'ils vont annoncer deux choses. Un, de l'argent à la frontière pour empêcher que les armes rentrent par les États-Unis, parce que il y a une portion immense des armes qui rentrent au Canada, qui rentrent par la frontière. Deux, faut vraiment qu'on serre la vis à ceux qui possèdent des armes de poing. Faut que ça devienne illégal au Canada, pour moi, de vendre, de posséder des armes de poing. Puis le gouvernement doit agir en ce sens-là. Pour moi, c'est la seule manière d'y arriver.
Mais Stéphanie, il y a déjà le projet de loi C-21 qui est à l'étude, qui vient... Mais on parle toujours ici des armes légales. Or, les criminels, ceux qui tuent dans les rues, les gangs de rue, ils vont pas l'acheter au Canadian Tire, leur arme de poing. Ils vont pas l'enregistrer, leur arme de poing. On ne sait pas combien il y a d'armes qui circulent auprès des criminels actuellement. Et c'est ça qui est le plus dangereux.
Le seul outil que ça dans son cas aussi quand c'est au gouvernement pour lutter contre ce genre de fléau là, c'est d'avoir des mesures dissuasives. Parce que t'as beau mettre des incitatifs du genre, si vous ramenez une arme illégale, on vous donne 1 000 $, ça fonctionnera pas.
Mais non.
Mais si tu mets des mesures dissuasives, tu sais, la carotte ou le bâton, tu utilises le bâton puis tu sévis sur ceux qui sont soit qui ont des armes illégales en leur possession qu'on arrête, ou alors, et aussi, en fait, qui sont des récidivistes, si on accentue les peines, le coût-bénéfice devient trop grand, mais peut-être qu'on va en dissuader certains d'avoir des armes illégales. Je dis peut-être, personne n'a une boule de cristal, mais au moins on agit. Puis je pense que malheureusement, là, je pense qu'on est rendu là. On veut pas devenir comme si c'était une culture à l'américaine. On veut éviter à tout prix qu'on se ramasse que l'ensemble des maisonnées au Canada aient des armes. Donc, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Ça prend des mesures dissuasives, ça prend le bâton. Moi, je pense qu'il y aura n'aura pas le choix de commencer à réfléchir à la possibilité d'être plus dissuasif pour ceux qui ont des armes illégales en leur possession.
Ça serait le temps. Et revenons à Taïwan. On en a beaucoup parlé cette semaine. Il y a Nancy Pelosi qui persiste et signe, puis on est avec Taïwan et la Chine qui n'est pas plus contente.
Ben non, persiste et signe, comme tu disais, je pense que malheureusement, on en parlait hier, là, mais elle a le doigt pris dans l'engrenage, puis en ce moment, ça a monté jusqu'au coude, hein, parce que Nancy Pelosi a déclenché la colère de la Chine. C'est en se rendant à Taïwan, comme tu disais, qui était alors que c'était pas arrangé, c'était pas informé, du côté de la Chine. Et la Chine, ben on le savait, allait pas rester sur assise à regarder Nancy Pelosi venir parader à Taïwan. Donc la Chine a commencé à réagir. Il y a des missiles même qui ont survolé au-dessus de Taïwan hier. Il y a des vingtaines de bateaux, un important nombre d'armements là, qui se sont rendus à la frontière de Taïwan. Il y a des missiles qui ont survolé Taïwan, qui ont survolé aussi jusqu'en zone économique exclusive, donc dans les eaux territoriales japonaises, alors que Nancy Pelosi était au Japon avec le premier ministre japonais. Donc, on voit que la pression elle a augmenté. Ça a forcé, je pense que Nancy Pelosi, quand même, faut lui donner, ça a forcé le premier ministre japonais à se positionner clairement en disant qu'ils allaient non seulement s'opposer aux activités militaires chinoises, pardon, mais que le Japon et les États-Unis continueraient à coordonner le maintien de la paix là, dans le détroit de Taïwan. Donc, ça a forcé un peu le Japon à s'activer parce que sont à côté. Ils sont pris entre la Chine et Taïwan via des eaux qui sont partagées. Donc, le Japon est dans une situation vraiment délicate. Puis, à rappeler que quand même, les États-Unis ont une base militaire d'à peu près 55 000 militaires actifs au Japon. Donc, il y a quand même là une montée de la tension dans la région qui est un peu sans précédent. Pas sans précédent, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'activités militaires dans la région.
Stéphanie, j'aimerais t'entendre sur la mobilisation des démocrates et en fait l'effet de ces tensions-là avec la Chine à cause de la visite de Nancy Pelosi lors des prochaines élections de mi-mandat de Joe Biden. Comment ils vont articuler tout ça pour y donner du sens?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la base naturelle de Pelosi et de Joe Biden qui appuie la visite de Pelosi, mais plutôt les républicains.
Ben oui.
Les républicains se sont positionnés en faveur de la visite en disant qu'il fallait soutenir la démocratie à Taïwan, fallait mettre à mal le régime chinois qui fait des manigances à quelque part un peu partout sur la planète. Puis c'est quand même surprenant parce que c'est pas des alliés naturels. Là. Pelosi, elle a quand même été la poster girl, si tu me prêtes l'expression, de celle qui voulait mettre à mal le régime Trump. Donc de voir aujourd'hui les républicains s'activer pour la soutenir dans sa visite, je trouve ça plutôt intéressant, pardon. Mais après, comment est-ce que ce genre de mesure-là ou d'annonce-là va se traduire dans l'élection? Bonne question. J'aurais pensé que le fait que Joe Biden mette à mal le régime taliban aurait eu un impact considérable, en fait, sur son taux de popularité. Mais là, avec tout le bruit qui s'est passé pour la visite de Pelosi à Taïwan, on dirait que ça a complètement été évincé, on n'en parle plus. Mais pour moi, le leg, en guillemets, important de mi-mandat pour Joe Biden, ça aurait été celui-là. Je sais pas s'il va réussir à capitaliser là-dessus pour faire une démonstration de force pour sa population puis son électorat. Je lui souhaite, parce qu'honnêtement, c'est quand même un tour de force qu'il a fait à quelques mois des mi-mandats qui seront en novembre. Mais pour l'instant, en fait, là, c'est vraiment Mme Pelosi, son voyage qui
a volé la vedette.
Attention. Ben oui, ça vole la vedette.
Ça a volé la vedette à Joe Biden. On parle plus de Nancy Pelosi que de Joe Biden aujourd'hui, alors que normalement, lorsqu'on abat le numéro un d'Al-Qaïda à Kaboul, ben c'est une victoire présidentielle, pas celle de la Chambre des représentants. C'est assez particulier de voir. On a l'impression qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, Nancy Pelosi et Joe Biden. À quel jeu ils jouent, on le sait pas. Peut-être que ça va s'avérer payant lors des prochaines élections de mi-mandat. Stéphanie, merci beaucoup. On se retrouve lundi.
Merci, Yasmine.
À lundi. Donc, je reviens sur Nancy Pelosi et Joe Biden qui vont devoir défendre les couleurs démocrates aux prochaines élections de mi-mandat. Est-ce que c'est pour cacher la difficulté financière américaine, de l'économie américaine, les taux d'inflation qui est historique, qui dépasse le 9%? Les États-Unis nous ont souvent amenés à parler de politique internationale pour cacher les enjeux nationaux. Est-ce une stratégie pour ne plus parler des entreprises qui ont de la misère, des familles qui souffrent à cause de l'inflation? Peut-être. On va suivre ça lors des élections de mi-mandat.